Michel Marguerat était le premier sur la liste. Il est tout de suite ici et je le remercie. Michel Marguerat est professeur d'histoire économique à Paris 1. Il donnera effectivement aussi des cours dans la préparation de l'année. L'intitulé de sa présentation s'appelle « La puissance économique et financière britannique dans le monde » et je lui cède la parole en le remerciant par avance.
Je vais répondre à la commande qui est donc, dans un temps restreint, de vous donner un aperçu qui ne sera pas un cours, donc qui sera une discussion. Vous voyez le caractère un peu formel de la discussion quand même. Pour essayer, au fond, de traverser cette question qui est légèrement décalée par rapport à ce que vient de dire Dominique, c'est-à-dire que on retombe quand même, quand on traite de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, des mondes britanniques entre 1815 et 1931, sur les questions économiques et financières. Mais revisité de la même manière qu'a été revisitée la société victorienne. Alors, je vais être forcément schématique, parce que ou je suis schématique et vous ressortez avec quelques éléments, ou sinon, si je ne suis pas schématique, on n'en sort pas. Donc, je vais retraverser ça à grand galop, mais vous allez voir qu'au fond, ce sont quand même des questions à la fois intéressantes et pour lesquelles les renouvellements n'ont pas été aussi considérables parfois qu'on le dit. Quelques caractéristiques avant quand même d'entrer dans le vif du sujet sur les spécificités de la question économique et financière. Ça a été une grande question pour les historiens britanniques, pour les Britanniques en général. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre est la première puissance industrielle, commerciale, financière, maritime sur une grande partie du XIXe siècle. Et si vous prenez une courbe simplement de la part de la production britannique dans la production industrielle mondiale telle qu'on peut l'estimer, tous ces chiffres sont faux, mais ce n'est pas grave, l'évolution doit être à peu près exacte. On s'aperçoit qu'au début de votre question, en 1815, ça doit représenter 40%. À la fin de votre question, ça en représente 10%. Et ça continue après. On peut penser que les Britanniques ont été obsédés par cette question de la baisse relative. Et ça a été longtemps une des questions. Ce n'est pas tellement la nôtre ou la vôtre aujourd'hui. Ceci étant, ça a quand même beaucoup parcouru l'historiographie britannique. Alors, trois questions particulières qui traversent cette question de la puissance économique et financière britannique dans le monde. D'abord, un problème de périodisation. Alors, je sais bien que ce n'est pas un cours d'agrég, mais néanmoins, on vous fixe 1815 et puis 1931. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais disons que ces coupures, elles sont à la fois politiques, économiques, diplomatiques, elles ont des vertus multiples. 1815, vous aurez l'occasion de voir effectivement que c'est une grande rupture par la fin des guerres notamment et des effets de toutes sortes que ça implique. Donc on entre dans un 19e. Du point de vue de la périodisation économique, ce n'est pas une date stupide, c'est une date qui a été fortement déplacée pour remonter avant et pour voir comment, au fond, les bases de l'industrialisation britannique avaient été mises en place. Mais j'y reviendrai. 1931, alors là, c'est résolument une date monétaire. C'est le décrochage de la livre sterling et la fin du Gold Exchange Standard, c'est-à-dire c'est en fait la fin du monde reconstruit difficilement en 1919-1922 qui essayait de reconstituer un système monétaire international, etc. Et c'est le début de la crise, de la grande crise des années 30 pour l'Angleterre. Dans cette périodisation, il y a une périodisation économique qu'on a de plus en plus affinée depuis 40 ans ou 50 ans d'historiographie. Pour dire les choses rapidement, on a parlé longtemps, vous savez, de première révolution, de deuxième révolution industrielle. On parle de moins en moins de révolution parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que, en fait, c'est un processus qui s'étale, qui est lent, avec des grappes de changements modestes, combinés, etc. Alors que l'idée de révolution, c'est l'idée d'une rupture, donc c'est de moins en moins Ce qui fait qu'il n'y a pas une date et une heure pour définir quand commence la révolution industrielle, la première. Donc on parle plutôt de première industrialisation et de seconde industrialisation. Et vous savez que l'Angleterre est la première à être, au fond, partie dans cette première industrialisation. Et cette première industrialisation, c'est peut-être l'intérêt des travaux récents, c'est le fait qu'on s'aperçoit qu'il y a en fait deux phases. À l'intérieur, alors rassurez-vous, je ne vais pas découper en phases multiples. Vous savez, c'est comme les préhistoriens. Plus on réfléchit, Lucie, on est remonté, etc. Alors, l'industrialisation, plus ça va, plus on la fait remonter. Mais c'est vrai que la période de 1780, 1810, 1815, si vous voulez, 1820, a été la période, en fait, de préparation vers une économie industrielle, bon, sans finalisme, mais avec le fait que toute une série de conditions de possibilités se sont créées, etc. Et puis, il y a cette première industrialisation qui est fondée sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre de méthodes, sur un certain nombre d'organisations, à la fois de la production, du travail, de la société aussi, des circuits, des marchés, etc., fondée surtout sur le textile, mais aussi sur le charbon, sur le fer, etc., qui va jusque des années, disons, 1840, jusqu'aux années 1870-1880. Et après, on a la seconde industrialisation. Alors, un schéma simple qui n'est pas contredit par l'historiographie récente, c'est l'idée que l'Angleterre a été la première dans la première industrialisation. Et vous savez qu'on a construit là-dessus toute une série de réflexions sur le décalage, le retard, etc., avec parfois des visions normatives. Le retard, c'est toujours il y a une notion morale, vous voyez. Quelqu'un d'entre vous est arrivé en retard, c'est pas pour autant qu'il est inférieur. Et peut-être que, au fond, même c'est malin de sa part, parce que il y a eu un certain nombre de propos introductifs, etc. Et lui, il va rattraper. Il va rattraper. Non, mais je parle pas pour toi. Je parle pour moi. Donc, il va rattraper. Et du coup, il a gagné. Il a gagné le temps d'ajustement, de mise en place, etc., qui peut être considéré comme du temps perdu. Bon, cette analogie est stupide, mais elle n'est pas complètement fausse, si vous voulez, dans le raisonnement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'Angleterre part la première, mais que toute une série de pays suiveurs vont profiter d'un certain nombre d'avancées technologiques et eux vont gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'ils vont économiser le temps de mise au point. Les innovations, les inventions technologiques, ça met du temps, etc., etc. Donc, il y a toute cette question de l'échelle du temps, ce que Verlet appelle l'échelle du monde, c'est-à-dire le fait qu'on entre dans une course à l'industrialisation dans laquelle il faut avoir une vision qui est relativement subtile parce que, au fond, les décalages ne sont pas fixes. Alors, l'Angleterre est la première puissance industrielle, commerciale, financière en 1830, en 1840. Et puis en 1880, 90, 1900, elle n'est plus la première puissance industrielle. Elle est toujours la première puissance commerciale et la première puissance financière. Donc il y a des décalages. Alors, quels sont ces trois thèmes qui peuvent être intéressants pour retraverser tout ça ? Premier thème, c'est cette question, quelle est la périodisation pertinente pour l'Angleterre, du point de vue économique et financier ? Donc il y aura ces grandes ruptures, qui sont en fait des ruptures lentes, qui s'étalent dans un processus plus long. Je dois dire que l'historiographie récente a affiné tout ça, elle n'a pas complètement contredit ce qui s'était écrit il y a 40 ans, et où vous avez des ouvrages majeurs dont je vais reparler tout à l'heure. La deuxième question, et je vais un peu plus vite, qui est une des questions aussi importantes, c'est que pendant tout un temps, on nous a présenté la révolution industrielle britannique et l'industrialisation britannique comme étant une question technologique, c'est-à-dire le fait qu'on avait combiné plusieurs innovations, notamment la fabrication mécanisée du coton, l'utilisation de la machine à vapeur, la production en plus grande quantité de fer, de fonte et d'acier, et le développement du chemin de fer. Tout ça s'étalant entre 1780 et 1840. Donc on s'interrogeait surtout sur l'offre. L'idée de plus en plus des historiens britanniques, anglo-saxons et français à leur suite, depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est de nous dire, attention, réfléchissez à la demande. À la demande, c'est-à-dire au marché, c'est-à-dire à la société, c'est-à-dire aux besoins, c'est-à-dire aux canaux de diffusion, c'est-à-dire aux modes de consommation. Et j'ajouterai, troisième problème, l'articulation entre la demande intérieure et la demande extérieure. Et là, on arrive dans ce qui est quand même votre programme, c'est-à-dire l'articulation entre le monde britannique et le monde en général. Donc, quel est le poids entre la demande intérieure et la demande extérieure? Est-ce que l'industrialisation, au fond, a répondu à une impulsion de la demande intérieure, des besoins de l'intérieur ou de l'extérieur? Comme toujours en histoire, les deux, hein, mon général ou mon capitaine. C'est-à-dire que c'est l'articulation des deux qui compte et de voir dans quelle mesure l'un et l'autre se combinent. Voilà des propos introductifs. Je vais entrer un peu dans le vif du sujet. Juste un point d'historiographie. Il y a 40 ans exactement, deux livres importants sortaient, l'un d'un Américain, l'autre d'un Britannique, tous les deux traduits en français, relativement rapidement. L'un, c'est l'ouvrage majeur de David Landes sur l'Europe technicienne, traduit donc 5 ou 6 ans plus tard, chez Gallimard. Le deuxième, je ne l'ai pas apporté, c'est le petit livre d'Hobsbawm, Industry and Empire. Industry and Empire, vous voyez déjà combien ces auteurs se posaient la question, puisque au fond, Hobsbawm déjà se posait la question de l'articulation entre l'industrie et l'Empire. Ce qui veut dire que déjà dans ces deux livres, il y avait la volonté de resituer, au fond, les mutations économiques, sociales, financières de l'Angleterre au milieu des mutations mondiales, doublement, de voir de quelle manière, au fond, l'Angleterre avait été amenée à s'appuyer sur des ressources dans le monde entier et comment, d'autre part, donc à titre d'approvisionnement, et comment, d'autre part, le monde entier pouvait servir de débouché donc par les exportations du point de vue de l'industrie britannique. Donc, des renouvellements sans doute, mais au fond, déjà, pas mal de choses étaient déjà présentes dans cette historiographie ancienne. Alors, je vous signale quand même que l'historiographie est renouvelée dans trois dimensions. Premièrement, tout ce qui est la global history, c'est-à-dire l'histoire des interconnexions, encore que bien souvent on nous présente comme nouveau des choses qui étaient déjà bien connues et anciennes, bon, mais qui sont un peu systématisées. Je vous signale que dans un mois ou quelques, devra sortir un ouvrage sur plusieurs des articles importants de Pomerance, qui donc a fait le travail sur la grande divergence. Hein, donc, et notamment, vous aurez des traductions en français de certains de ces articles. Je mettrai sur le site d'ailleurs un des articles qui résume son bouquin sur The Great Divergence. Donc, comment, l'une des questions qui a été posée, ça a été comment l'industrialisation fait que divergent non seulement l'Angleterre, mais l'Europe et le reste du monde. Hein. Donc, comment l'écart se creuse. Et puis, la deuxième question qui est un peu l'inverse, c'est en quoi cette révolution industrielle a au fond empêché, entravé, pénaliser le développement des pays extra-européens. Donc là, avec tout ce qui est lié aux réflexions, notamment sur les économies anciennes, l'esclavage, etc., etc. Et le troisième mode de renouvellement, mais ça vous est moins familier, mais ce n'est pas inintéressant par rapport à aujourd'hui, c'est le décalage entre la puissance économique, économie réelle, comme on dit aujourd'hui, et la puissance financière. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément articulation entre les deux. Hein. Au fond, au début de la période, l'Angleterre est une puissance économique et industrielle et pas encore autant la puissance financière qu'elle est. À la fin de la période, elle est la puissance financière et monétaire et elle n'est plus la puissance économique et industrielle. Donc il y a des décalages entre les deux et d'ailleurs, ça a des conséquences sociales puisque, au fond, hein, les milieux financiers et les milieux industriels peuvent éventuellement, et on le voit dans les années 20, peser différemment hein, pour défendre soit l'économie, soit la monnaie, et ça peut avoir des conséquences. Tout ça pour dire que le caractéristique aussi de l'histoire économique, c'est que les économistes s'y intéressent et font des livres d'histoire. Dans le dernier bouquin sorti en septembre, donc c'est aujourd'hui, de Daniel Cohen, La prospérité du vice, je n'ai pas le temps de vous lire la page, mais il dit à un moment donné, au fond, l'Angleterre du XVIIIe siècle, c'est exactement les nouveaux pays industriels des années 70, c'est-à-dire qu'ils se sont développés par leurs exportations, hein, en important des produits alimentaires parce qu'ils n'étaient pas capables de nourrir leur population avec ce dont ils disposaient, et d'autre part, ils avaient un appareil industriel trop important pour le réserver au seul marché intérieur. Donc ce sera un modèle exportateur, etc. Bon, tout ça est extrêmement schématique, mais c'est intéressant de voir comment on réutilise aujourd'hui ces éléments pour après voir comment ces idées peuvent être nuancées. Alors, je sais le temps qui me reste. Donc, trois points que je vais développer un peu dans les trois périodes qui me paraissent intéressantes. Période de la première industrialisation, donc des années 1815, donc de votre début, mais en fait, il faudrait bien repartir des années 80 ou 90 jusqu'aux années 1860-1870. Je l'ai dit, cette première période de la première industrialisation se divise elle-même en deux phases, pour être schématique. Une première phase qui est fondée d'abord sur le coton et en grande partie sur le marché intérieur, mais aussi sur les exportations. Je n'ai pas le temps de développer, mais si vous voulez, on sait très bien maintenant, et là c'est une historiographie même déjà ancienne, que la baisse des coûts à l'intérieur, l'amélioration des transports précède les chemins de fer. Ce sont les canaux, ce sont les routes. En partie, d'ailleurs, c'est la même chose un peu pour la France. Donc, on a dès les années 1780-1790 des baisses de coûts possibles. D'autre part, la conjonction de toutes ces modifications technologiques permet une production en grand du coton, qui permet le développement de cotonnades, elles-mêmes basées sur l'importation de coton venant donc de l'extérieur, et peu à peu devenant donc la production dominante, et dont une grande partie est effectivement exportée. Exportée soit aux États-Unis, ou en tout cas dans les colonies américaines avant de devenir les États-Unis, puis dans d'autres pays, donc en Europe et dans le reste du monde. On a donc une combinaison, en fait, et c'est cette combinaison qui est complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots de cette combinaison? C'est que probablement, je dis ça parce que là, c'est des débats importants que j'ai pas le temps, que je ne peux que résumer, probablement, le marché intérieur sert de soupape, sert de maintien, sert de stabilisateur aux fluctuations des exportations qui sont très importantes. Je pense que l'intervention de tout à l'heure va nous donner des éléments sur les exportations, mais qui ont des fluctuations très brutales. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tributaires, certes, de la puissance maritime. Seule l'Angleterre est capable de produire, de transporter, de diffuser ses produits. Donc elle dispose d'un quasi-monopole, en fait, hein, à la fois technologique, commercial et même en partie financier. Alors financier, on a très longtemps surestimé parce qu'on s'attardait sur l'accumulation primitive du capital, etc. En fait, le capital est assez peu important dans les débuts de cette industrialisation. Et donc ça vient à relativiser le poids du financier. En revanche, non, pas celui ni du commerce ni de l'industrie. Et donc il y a des fluctuations liées par exemple aux guerres, hein, au courant de circulation. Et le marché intérieur insuffisant pour cette production qui a été multipliée par 2, par 3, etc., sert malgré tout de soubassement en cas de fluctuation brutale. Deuxième période, c'est... Vous voyez, je vais au galop. Hein. De toute façon, je suis tranquille. On m'a dit que c'était ni un cours, ni une conférence, ni un colloque. Donc, je peux aller au galop. Hein. Donc, deuxième période, c'est un changement relatif à la fois dans les produits, je dirais, avec l'apparition de biens d'équipement, le charbon, le fer, l'acier, et au fond, le rôle toujours important du coton, mais s'y ajoute le chemin de fer. Et alors le chemin de fer, c'est complètement polysémique, hein, c'est-à-dire c'est à la fois une transformation économique, une transformation sociale du point de vue des structures sociales, une transformation du point de vue de l'espace, des transformations aussi du point de vue d'une demande en fer, en acier, etc. etc. Et ça permet aussi le développement d'un véritable marché d'exportation rapide aux biens d'équipement dans les pays européens. Et là, vous avez l'explication de ce que j'expliquais tout à l'heure avec mon anecdote stupide sur le retard. C'est-à-dire qu'en diffusant ces produits métallurgiques, mécaniques, aux autres pays européens d'Europe continentale, d'un certain point de vue, l'Angleterre fait en sorte que ses concurrents, qui ne sont pas encore en état véritablement de la concurrencer sur ce terrain, vont bientôt le devenir. Et donc, vous avez ce phénomène progressif, complexe, etc., de rattrapage successif de ce que Madison appelle le leader technologique, c'est-à-dire que peu à peu, l'Allemagne, la Belgique déjà, mais l'Allemagne, les États allemands, la France, etc., vont peu à peu recoller à cette puissance métallurgique britannique et même, vous le savez, la dépasser vers les années 1880-90 pour l'Allemagne et pour les États-Unis. Et d'autre part, un marché d'exportation dans les pays neufs, donc dans le monde entier, à la fois les pays sous domination britannique directe, donc les colonies et l'Empire, mais aussi des pays qui vont entrer dans l'orbite britannique, qu'il s'agisse des pays d'Europe, comme par exemple le Portugal, dont l'Angleterre s'approvisionne en produits primaires, essentiellement agricoles ou miniers, mais agricoles, le Porto, etc., deviennent un des débouchés essentiels, premier client et client quasiment exclusif, ou donc deviennent une semi-colonie, mais c'est valable aussi pour les pays d'Amérique latine. Donc vous avez une échelle de dépendance où la combinaison entre la dépendance politique et la dépendance commerciale économique se ventile selon des configurations multiples que je n'ai pas le temps de détailler, mais où vous avez eu des types, en fait, de marchés extérieurs assez distincts et assez hiérarchisés qui s'organisent autour de cette première puissance, qui a quasiment le monopole de cette capacité à la fois industrielle, commerciale, maritime, et en partie financière, puisque par ailleurs se constitue dans ces années 1840, la Banque d'Angleterre existait déjà depuis 1694, mais à la fois un système bancaire, une banque centrale avec des règles relativement précises et la constitution surtout de vrais marchés de capitaux à court terme, création d'un véritable marché monétaire, etc., à long terme d'un marché financier et des bourses de commerce. C'est-à-dire qu'en plus, tous ces produits sont généralement fixés quant à leur cours à Londres ou dans les principales places commerçantes de l'Angleterre. Deuxième phase, c'est la seconde industrialisation jusqu'en 1914. Alors, vous savez qu'elle se développe en deux moments. La période de la Grande Dépression, ce qu'on a appelé la Grande Dépression, des années 1880-90, et puis la période de la Belle Époque jusqu'en 14. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce qui a été revisité, c'est au fond ce déclin relatif. Et c'est là où les historiens britanniques, anglo-saxons, ont commencé à s'arracher les cheveux pour dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, au fond, l'Angleterre a perdu sa suprématie ?» ou en tout cas a reculé sur le plan relatif, même si elle continuait à progresser du point de vue des productions. Les travaux récents ont eu tendance à relativiser ce point de vue, c'est-à-dire à montrer quand même comment les atouts avaient été maintenus. Le consensus le plus large consiste à dire qu'à la différence, par exemple, de l'Allemagne ou des États-Unis qui ont misé sur des nouveaux produits, des nouvelles formes d'organisation du travail, des nouveaux espaces, les nouveaux produits, c'est la chimie, c'est l'électricité, c'est le pétrole, etc., les Britanniques ont persévéré à maintenir, au fond, les secteurs anciens dans lesquels ils étaient les plus forts dans la deuxième partie du XIXe siècle, malgré la perte relative de leur suprématie et une perte aussi relative de compétitivité de ces différents domaines. Donc maintenant, le textile, les constructions navales, la sidérurgie, la métallurgie, la mécanique, et au fond, se trouvant beaucoup moins bien placés dans ces secteurs nouveaux. Par ailleurs, vous le savez, la Grande Dépression a entraîné une mutation très importante sur le plan international, que vous reverrez sans doute dans la journée, c'est le fait qu'elle entraîne une réaction protectionniste de la part des pays nouvellement industrialisés, comme l'Allemagne ou comme les États-Unis. Donc des marchés qui étaient ces marchés d'exportation des produits métallurgiques, mécaniques, de ces biens d'équipement britanniques, se sont fermés. L'Angleterre seule est restée ouverte, libre-échangiste. Pourquoi ? Parce qu'elle avait délibérément déjà pratiquement sacrifié une partie de son agriculture. Elle a continué à le faire Pourquoi ? Pour approvisionner à bas prix les produits alimentaires, hein, le pays qui de toute façon n'aurait pas pu les produire, ce qui permettait de maintenir, malgré des salaires plus élevés que dans l'Europe continentale, hein, un pouvoir d'achat beaucoup plus haut de la part d'une grande partie des classes populaires en Angleterre par rapport à ce qui existait sur le continent. C'est donc le choix du sacrifice de l'agriculture, mais aussi, et là-dessus il y a des longs débats, le fait que le tournant de la seconde industrialisation aura été, au fond, pris de manière incomplète et en tout cas pas aussi efficace que dans la période précédente. Cela n'empêche pas le maintien de la puissance commerciale, même si elle est peu à peu rattrapée par les États-Unis et l'Allemagne, et surtout par la suprématie financière et monétaire. La place centrale de Londres, le poids des financiers même de la City dans le système politique économique anglais. Pourquoi ? Parce que la livre sterling est la monnaie internationale qui sert à la fois aux transactions commerciales, aux grands prêts internationaux, aux placements de capitaux. Et la période des années 1890-1900, comme dans la plupart des pays, a été marquée par une exportation massive de capitaux. Donc attention à cette phase apparente de déclin relatif sur le plan industriel et commercial correspond à une phase d'apogée sur le plan financier. C'est la première puissance exportatrice de capitaux qui, d'autre part, exporte ses capitaux, à la différence de la France, largement auprès de ses clients commerciaux. Vous savez que la France est schizophrénique. Elle envoie des capitaux en Russie, mais elle commerce avec les pays européens et puis elle a des colonies ailleurs encore en Afrique. Alors que l'Angleterre combine un peu mieux, hein, l'espace colonial, l'espace de l'exportation des capitaux et l'espace des commandes de marchandises. Donc il y a une géographie compliquée, mais qui est plus cohérente. Ce qui fait qu'à la veille de la guerre de 14, on a un peu ce paradoxe, hein, d'une puissance économique plus ou moins rattrapée, mais d'une puissance financière et monétaire qui reste hégémonique. La guerre de 14, tu n'es pas inquiet. Non, je parle pour l'heure, hein, pour le reste. La guerre de 14 va bouleverser non seulement le système britannique, mais le système mondial qui était en grande partie dominé par la puissance économique et financière britannique. Un des éléments dont on se rendra compte après-guerre, après la Première Guerre mondiale, qui était un des éléments, au fond, relativement stabilisateurs du système mondial, était le fait que, je vous rappelle qu'à partir des années 1870-1880, il y a un véritable système monétaire international fondé sur les talons or, hein, sur la convertibilité et en fait sur la puissance internationale. J'ai les lits d'une livre sterling relativement stable, hein, et convertible en or. Mais plus largement, ce qui faisait la stabilité du système économique international, c'était le déficit de la balance commerciale britannique. Déficit permanent et qui n'est pas perçu comme une source de faiblesse. Pourquoi ? Parce que ce déficit est la marque de l'expansion commerciale britannique qui permet aux pays clients d'acheter donc des produits malgré tout. Hein, c'est-à-dire que les approvisionnements nécessaires de l'Angleterre en produits alimentaires, en matières premières, à part le charbon, l'Angleterre doit importer pas mal de choses, hein, sur le plan industriel. On souligne toujours le poids du charbon, mais il y a le reste. Tous ces achats qui viennent creuser le déficit représentent autant de livres sterling qu'au fond les clients peuvent acheter et qui permet de faire fonctionner en partie le système. Donc non seulement le déficit commercial n'était pas perçu comme une faiblesse, mais plutôt une marque d'expansion, hein, et de maintien d'une hégémonie, mais était un élément stabilisateur sur le plan international. On va s'apercevoir, après 1919, lorsque les États-Unis, eux, vont apparaître comme étant la puissance rivale et vont devenir la première puissance mondiale dans les années 30 et les années 40, que, au fond, qui, eux, n'ont pas de déficit commercial, posent des problèmes beaucoup plus graves de déséquilibre, parce que, de ce fait, beaucoup de pays deviennent très déficitaires. Hein, alors qu'avec, au fond, les approvisionnements britanniques, ils pouvaient, au fond, avoir une meilleure situation de leur paiement. Après la Première Guerre mondiale, l'une des questions majeures qui est posée, il y en a trois. Premièrement, c'est le fait que l'économie britannique ne se relève jamais vraiment de cette Première Guerre mondiale. Donc elle n'a pas cette périodisation que connaissent les autres pays d'Europe occidentale, c'est-à-dire la prospérité des années 20. Il n'y a pas de croissance dans les années 20. Bon, en revanche, vous me direz, mais ce n'est plus votre programme, donc vous vous en fichez, mais moi, je ne m'en fiche pas. Les années 30 ne sont pas non plus des années de crise aussi terribles que d'autres pays. Mais bon, donc elle est complètement décalée. Donc, pourquoi il y a ce décalage? Parce que, au fond, l'Angleterre continue à miser sur ces secteurs traditionnels qui, alors, connaissent de vraies difficultés de compétitivité sur le plan international, avec une chute des exportations, à la fois en valeur absolue, en valeur relative, etc. etc. Deuxième élément qui explique la difficulté, la très grande difficulté à reconstituer un système monétaire international dont, vous savez, la livre était le centre. Et on reconstitue en 1922 le Gold Exchange Standard, c'est-à-dire un système fondé sur l'or, le dollar et la livre. Et désormais, il y a le dollar. Mais au fond, les grandes inflations, les difficiles stabilisations vont faire en sorte qu'à peine les pays ont à peu près stabilisé qu'apparaît la grande crise des années 29-30. Donc en réalité, on ne retrouvera jamais véritablement la belle époque de la stabilité de l'étalon or, etc. Et troisième élément, la lutte entre les financiers et les industriels va être sans doute, alors on a un peu exagéré ce phénomène, et Keynes y a beaucoup contribué, mais il est probable que la volonté absolue de rétablir la livre à sa parité d'avant-guerre en 1925, vous savez que les sarcasmes de Keynes à l'égard de Churchill, le fait que la livre sterling soit la seule monnaie avec le dollar qui retrouve non seulement la convertibilité mais la parité, a entraîné un effort de compression et a refroidi l'économie, qui va faire en sorte probablement que les produits deviennent encore plus chers, hein, exprimés en livres sterling, et va encore plus compromettre le système économique international. Et à partir de ce moment-là, non seulement la balance commerciale est déficitaire, mais la balance des paiements commence à devenir un problème. Et comme nous dit Hobsbawm, à partir de ce moment-là, tous les dirigeants britanniques vont connaître l'insomnie. Hein, jusqu'à la fin quasiment du XXe siècle, c'est-à-dire de ces déficits de la balance des paiements et des attaques contre la livre, hein, jusqu'à Madame Thatcher comprise. Donc on voit bien que là, c'est rompu un système et que, au fond, l'Angleterre était elle-même tributaire de ce système mondial, puisqu'elle en était à la fois un des éléments moteurs, un des éléments qui en profitait le plus, mais aussi un des éléments dont elle permettait une relative stabilisation. Alors, il y a eu les explications elles-mêmes, votre question est essentielle, hein. Il y a eu des explications elles-mêmes qui repoussent le problème plus loin, c'est-à-dire qu'on a évoqué toute une série d'éléments où l'Angleterre s'était fait distancier, notamment dans les années 1880 hein, ou 90, par rapport aux autres pays, notamment du point de vue de la formation de leur élite, du fait qu'il n'y avait pas des grandes écoles d'ingénieurs, du fait que, etc., etc. Donc on a été chercher chez les managers, on a été chercher chez le système d'éducation, on a été chercher donc dans la formation. Il est probable aussi que les acteurs même de ces secteurs ont eu une position qui empêchait probablement des mutations, hein. C'est-à-dire que c'était des secteurs extrêmement puissants, hein, si vous pensez aux mines, si vous pensez aux constructions navales, si vous pensez à la sidérurgie et si vous pensez à une grande partie du textile, ça représentait aussi dans la société britannique certainement des éléments de poids qui pesaient à la fois sur l'opinion, sur le débat public, sur le système politique et qui avaient aussi des relais possibles, etc. Mais il est certain que on manque un peu d'explication, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un raisonnement un peu tautologique. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, ils n'ont pas innové parce qu'ils n'étaient pas capables d'innovation. Ce genre de raisonnement n'est pas tellement satisfaisant. Il y a quand même une vraie question, je pense, qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais qui est intéressante, qui est à partir de positions acquises, il est parfois difficile, vous voyez, de faire comme Cortés et de brûler tous ses vaisseaux. et de repartir à zéro. Donc il y a quand même là la dépendance du chemin emprunté qui fait qu'on a du mal à s'en dégager. Et c'est les problèmes de réversibilité ou non des choix qui ont été faits, notamment quand ce sont des choix industriels lourds qui entraînent des régions entières, hein, pensez au Lancashire. Et d'un certain point de vue, peut-être aussi une des explications, c'est que à plusieurs reprises, ces secteurs anciens ont été sauvés un peu de manière miraculeuse. Il y a un premier ralentissement pour les exportations de coton dans les années 1830-40, qui est pratiquement, où ils sont pratiquement sauvés par les marchés extérieurs et en grande partie l'Amérique latine. Et puis dans les années 1880, c'est l'Inde qui va quasiment sauver le Lancashire. Donc cette puissance internationale a sans doute aussi amorti probablement les problèmes de viabilité de ces secteurs anciens et en difficulté. Et puis alors, dans l'entre-deux-guerres, c'est ce que j'ai dit, je pense que là, ça s'explique beaucoup mieux par le jeu d'acteurs, c'est-à-dire que pour sauver la City, pour sauver la livre sterling, pour maintenir la suprématie des banques, des compagnies d'assurance, du système financier, on sacrifie de fait l'industrie. Ou en tout cas, on l'empêche hein, de maintenir ou d'accroître sa compétitivité. J'ai bien conscience de ne pas répondre tout à fait à votre question. Hein. Je n'ai pas pu être très précis. Hein. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? J'ai voulu dire qu'au fond, même dans ces deux ouvrages qui me paraissent deux ouvrages majeurs, hein, parce que bon, Lendes, autant il a écrit d'autres choses bon, plus récentes, mais celui-là, même traduit en français, parce que c'est bien traduit pour une fois, c'est magnifique, parce que vous avez une approche technologique superbe des objets. C'est-à-dire, il vous raconte comment un objet, justement, comme votre vélo, là, il s'adapte peu à peu. C'est-à-dire, il ne suffit pas, vous voyez, qu'il y ait eu une invention. Quelquefois, il faut 20 ans, 30 ans, la mise au point, comment ça s'adapte, etc. Il vous explique la machine à coudre, c'est magnifique. Hein. Bon, eh bien, malgré ça, il dit, j'ai pas le temps de citer hein, le passage, mais il dit, page 112 ou je ne sais plus quoi, il dit, après avoir développé l'offre, etc., la révolution technique, il dit, mais attention, tout ça n'aurait pas été possible sans la demande. Sans la demande existante, c'est-à-dire les conditions de possibilité de baisser les coûts, de faire en sorte qu'il y ait quand même un marché, une élévation, qu'il y ait la préparation du... Donc, on oublie qu'il le disait déjà, vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Et dans le cas d'Obsbaum, son titre est quand même superbe, Industry and Empire, et il a, je crois, un chapitre qui s'appelle La Grande-Bretagne et le Monde, ou quelque chose de ce genre, et où il explique vraiment très très bien, alors pas avec force détail comme aujourd'hui, mais où il explique comment les liens sont vraiment très fort, et comment, aux approvisionnements comme marché, on ne peut pas concevoir l'Angleterre sans... Alors, le fait qu'on considère que c'est un marxiste, je sais pas quoi, je veux dire, on s'en fiche, hein. C'est-à-dire que son ouvrage était de toute façon quelque chose, à mon avis, de remarquable, même si, par ailleurs, on a beaucoup avancé. Pomerantz, je suis d'accord, le fait de relativiser en disant la Chine, l'Inde, étaient plus développées pas tellement à cette période-là, mais avant. Hein, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on redécouvre ce qu'on savait quand même déjà, qu'il y avait déjà des avancées technologiques. On savait quand même que les Chinois avaient inventé la poudre. Je veux dire, c'est pas Pomerantz qui nous l'a... Vous voyez. Donc, la mise en perspective, d'accord, ça nous avance pas tout à fait sur l'Angleterre. C'est ça que j'ai voulu dire. Tout ça pour dire que des ouvrages anciens que vous lisez avec le regard, mais parce que vous avez lu d'autres choses entre-temps, vous permettent peut-être de mieux les apprécier de ce point de vue-là. L'Angleterre n'était pas en avance, certes, c'est pas tellement en 1800 qu'elle n'était pas en avance, c'est pratiquement en 1700 ou 1600. Et en 1800, elle devient vraiment en avance, d'autant plus qu'elle s'arrange bien pour massacrer les éléments de l'avance des autres, puisque en fait, un des points qui a permis aux cotonnades britanniques de s'étendre dans le monde entier, ça a été quand même de torpiller toute l'industrie cotonnière indienne. Donc, il y a bien eu aussi un facteur volontaire hein, pour essayer de briser des éléments qui existaient dans le reste du monde. L'apport de Pomerantz, c'est plutôt d'avoir dit que les avances des autres, de ces autres civilisations, notamment asiatiques, était antérieure à la période du 19e, mais plutôt pour la période moderne.